Donc bonjour à tous. Ça faisait déjà un moment qu'on s'était pas replongé dans le livre des Actes. Donc aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre 2 et nous allons nous concentrer sur les versets 42 à 47. Donc acte 2. Versets 42 à 47. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. Amen. Donc nous avons vu dernièrement, nous avons parlé de la Pentecôte. Nous avons parlé de ce qui a été fait pendant la Pentecôte. L'événement extraordinaire. Donc la Pentecôte avait eu lieu. Le bruit du ciel avait retenti. Les disciples en parlaient en d'autres langues. Et Jérusalem était bouleversée. Mais Luc ne veut pas que nous restions scotchés sur le phénomène qui s'est passé. Il ne veut pas que l'Église soit fascinée par l'extraordinaire de l'événement qui a eu lieu. Mais il voulait qu'on s'attache, qu'on retienne l'interprétation apostolique de ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et donc, autrement dit, c'est ce que Pierre a prêché ce jour-là même. Et donc, après la prédication de Pierre, on voit qu'environ 3000 âmes ont été ajoutées au nombre des disciples. 3000 âmes. Le Christ a été annoncé ce jour-là par Pierre. Les cœurs ont été transpercés. Les pécheurs ont été appelés à la repentance. Et maintenant, Luc nous montre ce qui s'est passé à la suite de cet événement. Luc nous fait entrer dans la vie de cette jeune église née le jour de la Pentecôte. Luc nous montre sous l'inspiration du Saint-Esprit ce à quoi ressemble une église lorsque l'Évangile est reçu. Lorsque le Seigneur sauve et lorsque l'Esprit forme véritablement un peuple pour le nom de Christ et pour sa gloire. Ce passage nous enseigne pas seulement comment l'église commence. C'est quoi l'origine de l'église ? Mais elle nous montre aussi comment cette nouvelle Église vit l'Évangile après la Pentecôte. Il nous montre les marques visibles d'une communauté transformée par la grâce de Dieu. Et nous y voyons une Église qui est attachée à la vérité. Une Église attachée à la parole de Dieu. Profondément unie dans la communion fraternelle, sérieuse dans l'adoration, simple dans sa vie, généreuse dans son amour et aussi belle dans son témoignage. Une église enracinée dans l'enseignement des apôtres, mais aussi vivante dans sa communion, fidèle dans l'adoration et attrayante. Donc elle attire par son témoignage. Et donc, en d'autres termes, l'Esprit de Dieu ne produit pas une église chaotique. L'Esprit de Dieu ne produit pas une église superficielle. L'Esprit de Dieu forme une église ordonnée par la vérité, réchauffée par l'amour et tournée vers la gloire de Dieu. Ce passage nous rappelle que l'église locale n'est pas une invention humaine, n'est pas gouvernée par l'homme. Elle nous rappelle que c'est l'œuvre du Christ ressuscité qui bâtit son église, qui gouverne son église. Il nous rappelle aussi que le Seigneur n'a pas laissé son peuple sans direction. Il lui a donné sa parole, ses ordonnances, la communion des saints, la prière et tout ce qui est nécessaire pour son édification. Au chapitre 26, paragraphe 3 de notre confession de foi, nous lisons: à cette église catholique visible, Christ a donné le ministère, les oracles et les ordonnances de Dieu pour le rassemblement et le perfectionnement des saints en cette vie jusqu'à la fin du monde, et par sa propre présence et esprit, selon sa promesse, les rend efficaces à cette fin. Autrement dit, le Seigneur Jésus, en tant que roi et chef de son église, a ordonné tout ce qui concerne le rassemblement, l'ordre de son église, l'ordre de l'adoration et l'édification de son peuple. Et donc, nous verrons dans ce texte trois grandes vérités. Trois grandes vérités. La première, c'est une église fidèle persévère dans les moyens de grâce ordonnés par Dieu. Deuxièmement, une église vivante manifeste une communion concrète et sacrificielle. Et enfin, nous allons voir, une église saine rayonne dans le monde par une adoration joyeuse et un témoignage qui est visible. Donc, mon premier point, une église fidèle qui persévère dans les moyens de grâce. Donc, les versets 42 au verset 43. Et donc, dans ces versets, nous lisons: il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et ici au verset 42, nous voyons exactement ce qui occupait leur cœur. Nous voyons ce qui occupait le cœur de cette jeune, parce qu'on parle d'une jeune communauté ici. Luc ne commence pas par des structures, par des ministères, par des programmes ou des méthodes. Il commence par des réalités essentielles. Il nous montre les fondations de la vie ecclésiale. Et le premier mot qui nous frappe ici, c'est « il persévérait ». « Il persévérait ». Il ne s'agit pas d'un enthousiasme qui est passager. Donc après la Pentecôte, donc il y a eu tout l'émotion, il y a eu tout l'extraordinaire, et c'était juste passager, plus rien. Mais non, il persévérait. Et donc ce n'est pas seulement l'élan émotionnel d'une foule impressionnée, c'est une persévérance, c'est une constance et c'est une assiduité. Et donc le verbe employé par Luc évoque une fidélité qui est continue, une dévotion qui est régulière. Et la même idée apparaît en acte 1, verset 14, on l'a vu, lorsque les disciples persévéraient d'un commun accord dans la prière. Ils persévéraient, même avant la Pentecôte, ils persévéraient déjà dans la prière. L'Esprit qui a été répandu ne rend pas l'Église indépendante des moyens ordinaires. Elle s'y attache davantage. Elle s'attache aux moyens de grâce. Et donc beaucoup de choses peuvent susciter une émotion religieuse qui est momentanée. Mais seule la grâce de Dieu fait persévérer un peuple dans les voies du Seigneur. Et Jean Calvin remarque, en commentant ce passage, que Luc présente ici les exercices par lesquels Dieu conserve et édifie son Église, la doctrine, la communion, les sacrements et la prière. Le Seigneur ne bâtit pas son Église par une improvisation humaine, par notre intelligence, non. Mais c'est par les moyens que lui-même a établis. Luc mentionne ensuite quatre réalités dans lesquelles il persévérait. Premièrement, l'enseignement des apôtres. Voilà la première marque d'une église saine. La première marque d'une église saine. Elle est une église qui est enseignée. Elle est une église qui est enseignée. Elle demeure attachée à la doctrine apostolique. Elle ne vit pas de ses intuitions, de ses impressions, ni de ses préférences. Cette église reçoit humblement les vérités révélées par Dieu. Elle les reçoit de tout cœur. L'église ne crée pas son message, elle le reçoit. Elle ne décide pas du contenu de sa foi. Elle se soumet à la parole de Dieu transmise dans sa parole. Avant d'être une communauté d'activité, l'Église est avant tout une communauté de vérité. Avant d'être envoyée dans le monde, elle doit être instruite par Dieu. Avant de parler, elle doit écouter. Et avant d'agir, comme on l'a vu au chapitre 1, elle doit recevoir l'Esprit Saint. Éphésiens 2, verset 20, nous lisons, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Le fondement apostolique, pour nous, n'est pas une option. Elle est constitutive de l'Église. Une Église qui se détache de la doctrine apostolique se détache de son propre fondement. Et aujourd'hui, cette doctrine apostolique nous est donnée par les Écritures saintes. Ainsi, persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est persévérer dans la vérité biblique. C'est aimer la prédication fidèle à la parole de Dieu. C'est recevoir la correction de la parole. C'est vouloir être gouverné par ce que Dieu dit. C'est pas être gouverné par nos choix, par notre ressenti. Mais c'est être gouverné par ce que Dieu dit dans sa parole. John Gill, commentant Actes 2, verset 42, souligne que l'enseignement des apôtres n'était pas une doctrine inventée par eux-mêmes, mais la doctrine de Christ, reçue de lui et transmise fidèlement à l'Église. Les apôtres ne sont pas des innovateurs ici. Ce sont des témoins qui ont été autorisés par Christ ressuscité. Et c'est pourquoi notre confession de foi, dès son premier chapitre, dès son premier paragraphe, nous dit sur l'Écriture sainte, la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance à salut, de foi et d'obéissance. Dès le premier chapitre, dès le premier paragraphe. Une église en bonne santé, et donc une église qui aime la saine doctrine, qui reçoit l'Écriture comme autorité suprême et qui refuse de remplacer la parole de Dieu par les goûts du moment. Et c'est exactement ça qui doit guider notre recherche d'une église lorsque nous recherchons une assemblée. Est-ce que c'est parce que nous aimons plus avoir une bonne musique ? Et nous sommes dans une génération où il y a un conflit de génération. Hein. Il y a des églises qui sont plus jeunes, qui sont un peu plus âgées. Ben, j'irai pas dans une église qui est plus âgée parce que peut-être il n'y a pas de jeunes, peut-être je ne vais pas me marier, je n'aurai pas d'amis. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui gouverne notre marche? Ou c'est la parole de Dieu révélée dans les Écritures saintes? De Timothée 3, versets 16 à 17, le dit clairement. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. L'écriture enseigne, l'écriture convainc, l'écriture corrige et forme aussi. Elle n'est pas seulement une source d'encouragement. Elle est aussi un instrument de sanctification, de réforme et de direction. Parce que nous sommes tous des pécheurs. C'est vrai que nous sommes justifiés. Oui, positionnellement. Mais tous les jours, nous péchons. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu, de l'enseignement des Saintes Écritures pour nous remettre dans l'ordre, dans le droit chemin. Et ça de façon progressive et persévérante. Une église remplie de l'Esprit est une église qui est soumise à la parole. L'Esprit qui a inspiré les apôtres conduit l'église à demeurer dans leur enseignement. Le vrai réveil spirituel ne marginalise jamais la saine doctrine. Au contraire, elle lui donne sa juste place. Deuxième réalité, la communion fraternelle. La communion fraternelle. Et Luc poursuit, dans la communion fraternelle. Cela veut dire que l'église n'était pas seulement un lieu d'enseignement, mais aussi, attention, un peuple uni. Un peuple uni. Le mot désigne une participation commune, une vie partagée, une union visible entre des croyants qui ont désormais part au même salut. Des croyants qui ont part au même salut, au même Seigneur et au même Esprit. L'Église n'est pas une salle où des individus viennent s'asseoir l'un à côté de l'autre sans véritable relation. L'Église est une famille spirituelle. Ceux qui ont été réconciliés avec Dieu ont aussi été rapprochés les uns les autres. Ceux qui ont été sauvés ont été rapprochés les uns des autres. L'Évangile détruit l'isolement spirituel. Il nous unit à Christ. Et par là même, il nous unit à son peuple. 1 Jean 1, verset 3 nous dit, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en commun avec nous. Or, notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » La communion fraternelle découle donc de la communion avec le Père. Découle de la communion avec notre Dieu. Parce que nous avons part au même Christ, nous avons part les uns vers les uns aux autres aussi. Éphésiens 4, versets 4 à 6 nous rappelle, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. L'unité de l'Église n'est pas d'abord sociologique, elle est profondément théologique. Elle repose sur l'unique Dieu, l'unique Seigneur, l'unique foi et l'unique esprit. Et on peut dire que la communion fraternelle n'est pas un supplément facultatif de la vie chrétienne. Elle fait partie de la nature même de l'Église. Un chrétien isolé, volontairement, c'est une contradiction spirituelle. Je suis sauvé, oui, c'est vrai, mais je préfère rester chez moi. Je suis sauvé. J'ai cette conviction, mais je préfère rester chez moi. Regardez mes cultes en ligne. C'est une contradiction spirituelle. Le Seigneur ne sauve pas seulement un individu, il rassemble un peuple. Il rassemble son peuple. Notre confession de foi au chapitre 27 sur la communion des saints enseigne que tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ sont tenus d'exercer entre eux une sainte communion dans l'adoration de Dieu, ainsi que dans les services spirituels et matériels propres à leur bien mutuel. C'est exactement ce que nous voyons ici, dans cette église primitive. L'église primitive ne partageait pas seulement une confession de foi, elle partageait une vie. Troisième réalité visible, la fraction du pain. Donc nous avons vu l'enseignement des apôtres, nous avons vu la communion, donc ils persévéraient, donc c'était constant dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et là on a la fraction du pain. Et donc Luc mentionne la fraction du pain. Donc il s'agit vraisemblablement ici du repas du Seigneur. Donc peut-être dans un cadre plus large de la relation fraternelle qu'ils avaient. Et donc ce qui ressort, c'est que cette église se rassemble autour de Christ crucifié. Elle n'est pas nourrie seulement par la doctrine entendue, mais aussi par l'ordonnance visible qui a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ crucifié. La Sainte Cène rappelle continuellement à l'Église le centre de son existence. Le corps livré et le sang versé du Seigneur. Elle annonce la mort du Christ, nourrit la foi, fortifie les croyants et manifeste l'unité du peuple de Dieu. Et au chapitre 30, paragraphe 1 de notre confession de foi, nous lisons: le Seigneur Jésus a institué la Sainte Cène la nuit où il fut livré, pour qu'elle soit observée dans ses églises jusqu'à la fin du monde, afin d'être un souvenir perpétuel et une déclaration du sacrifice de lui-même en sa mort. Par elle, la foi des croyants est affermie dans tous ses bienfaits. Leur nourriture spirituelle, leur croissance en lui, leur progrès dans l'accomplissement de tous leurs devoirs en lui. C'est en lui seul. Voilà ce que nous voyons dans cette église, dans sa forme simple et vivante. Une église qui ne se lasse pas de revenir au Christ crucifié. Elle persévère dans la fraction du pain. Enfin, nous avons la persévérance dans les prières. Enfin, que Luc dit, et dans les prières. Donc il persévérait aussi dans les prières. Et ici nous voyons qu'une église, cette église naissante, parce que même avant la Pentecôte, elle persévérait dans la prière. Donc c'est une église par essence qui prie. Qui prie. C'est une église qui dépend de Dieu. Elle ne vit pas d'autosuffisance. Elle sait qu'elle a besoin de la grâce du Seigneur pour persévérer, pour être gardée, pour être sanctifiée et pour voir des pécheurs convertis. Elle a besoin de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi elle dépend de son Sauveur et elle persévère dans la prière. L'Église avait prié avant la Pentecôte, elle prie encore après la Pentecôte. Et cela nous montre que l'effusion de l'Esprit ne supprime pas la prière. Au contraire, elle donne à l'Église une plus grande dépendance à son Seigneur. Acte 4, 31 montre cette même réalité. Nous lisons, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient, ensemble, non, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » La prière est liée à la puissance spirituelle, non pas comme une technique, mais comme l'expression de notre dépendance envers Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Par notre prière, nous lui montrons que nous ne sommes pas autosuffisants, que nous avons besoin de lui pour marcher. Nous avons besoin de sa grâce pour persévérer et marcher dans la sanctification. Une église peut avoir la doctrine de l'organisation et pourtant manquer de souffle spirituel si elle ne prie pas. Et si la doctrine et la prière vont ensemble? La doctrine et la prière vont ensemble. La vérité n'éteint pas la dépendance. Elle nourrit cette dépendance. Plus une église connaît Dieu selon la parole, plus elle apprend à se jeter à ses pieds et à prier. Puis le verset 43 ajoute, « La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Et donc, la conséquence de cette vie ecclésiale, on le voit, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Non pas une peur qui est servile, on a peur de Dieu, mais une profonde révérence devant la présence de sa sainte gloire. Les prodiges accomplis par les apôtres avaient une fonction particulière d'attestation apostolique. Ils confirmaient le ministère des témoins choisis par Jésus-Christ. Nous lisons en Hébreux 2, versets 3 et 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ce passage nous parle du salut annoncé par le Seigneur, confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles. Et donc, nous ne devons donc pas lire ces signes comme des modèles ordinaires, que chaque église devrait reproduire mécaniquement. Non. Mais comme des marques particulières de l'autorité apostolique au commencement de l'Église. Là où Dieu agit vraiment, il produit à la fois la joie et la révérence. Ainsi, une Église fidèle est une Église qui persévère dans les moyens de grâce établis par Dieu, c'est-à-dire la parole, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. C'est ce qui doit gouverner notre marche en tant qu'Église. Mon deuxième point, une Église vivante manifeste une communion concrète et sacrificielle, les versets 44-46. Et nous lisons au verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Et donc ici, Luc continue de décrire cette jeune église. Et ce qu'il met maintenant en lumière, c'est la réalité concrète de cette communion, la réalité concrète de cette communion fraternelle. La grâce qu'ils avaient reçue n'était pas simplement doctrinale. On le voit. Cette grâce transformait leurs relations. Luc décrit l'effet de l'amour chrétien sur des cœurs transformés. Des cœurs transformés par Christ, qui a complètement changé la dynamique de vie dans cette assemblée. Les croyants ne vivaient plus comme des individus isolés. Ils avaient désormais conscience d'appartenir les uns aux autres en Christ, leur Seigneur et leur Sauveur. Et le verset 45 précise, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Selon les besoins de chacun. Il faut souligner cette dernière expression, parce que ça crée souvent la confusion. Parce qu'on va se dire, bon, on est sauvé, je suis sauvé, bon, là, je vais vendre ma maison, je vais tout vendre, et puis, non. Non, c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit ici. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Quand on dit selon les besoins, ça veut dire que tout le monde n'avait pas les mêmes besoins à la base. Luc ne parle pas d'une mise en commun absolue et uniforme de tout ce qu'il possédait. Luc nous parle ici d'une générosité volontaire, gouvernée par l'amour et répondant à des besoins qui étaient réels. Ce n'est pas la contrainte qui agit ici. Ce n'est pas la contrainte, mais c'est la grâce de Dieu. Et Jean Calvin souligne avec justesse que cette communauté de biens ne doit pas être transformée en loi générale abolissant toute possession, mais qu'elle montre plutôt l'ardeur de leur amour fraternel. Autrement dit, Luc ne nous donne pas un modèle économique à imposer dans l'Église ici, mais c'est un modèle spirituel à désirer, que nous devons rechercher. Des cœurs tellement libérés par Christ qu'ils deviennent disponibles pour les besoins du corps. Des cœurs libérés par Christ. Qu'ils se donnent volontairement et avec générosité pour l'Église de Christ. Lorsque Christ sauve, il nous apprend à mieux aimer. Il change notre rapport aux possessions, il change notre rapport au confort et à l'intérêt personnel. Là où la grâce règne, les besoins des frères et sœurs ne nous laissent pas indifférents. En Jean 3, verset 17 nous dit, « Si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» L'Évangile ne nous permet pas d'être indifférents aux besoins des autres. Les croyants unis à Christ doivent aussi s'entraider mutuellement selon leurs capacités et selon les nécessités. L'amour fraternel n'est pas théorique, elle devient visible. Nous la voyons. Il prend la forme d'un secours qui est réel. Et le verset 46 poursuit, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils étaient chaque jour. Et nous, des fois, le dit un dimanche, ah, j'ai pas envie d'aller à l'église, ah, je me sens pas bien, je suis comme ci, je suis comme ça. Ils allaient tous les jours au temple. Lorsqu'on a un petit bobo, oh, mais non. Il y a une situation avec le bus, ah, mais voilà. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. On parle d'assiduité ici. Le point ici n'est pas d'établir un modèle rigide quant au lieu. Parce que lorsqu'on va voir le temple, on peut dire, voilà, c'est le temple. Non, le point ici, ce n'est pas d'établir un modèle rigide quant au lieu précis de rassemblement, mais de montrer leur assiduité et leur désir d'être ensemble. On parle d'assiduité ici, et ce désir de se réunir avec les autres. Ils ne vivaient pas leur foi de manière distante. Ce n'étaient pas des croyants, chacun dans leur coin. Ils avaient un profond désir de se retrouver comme peuple de Dieu. Une église vivante n'est pas composée de chrétiens détachés, de chrétiens occasionnels. Ou simplement, on peut dire des consommateurs qui viennent juste, qui consomment et puis qui s'en vont. Elle est composée de croyants qui veulent être ensemble, qui aiment la communion du peuple de Dieu, qui comprennent que la vie chrétienne normale se vit dans l'église locale. Le rassemblement de l'église n'est pas un simple rendez-vous. C'est un moyen de persévérance. Et le verset ajoute ensuite qu'il rompait le pain dans les maisons. Et donc on voit ici qu'il y a un rassemblement large de la vie intime, même qui va jusque dans les maisons. Donc l'église ne se limitait pas à un cadre officiel du temple. Elle se prolongeait dans la vie quotidienne. La grâce de Dieu habitait leur vie commune. Et donc nous pouvons facilement réduire l'Église à un événement hebdomadaire, alors que le Nouveau Testament nous présente l'Église comme un peuple, comme une famille, comme un corps, et comme une maison spirituelle. Le jour du Seigneur est central, mais la vie fraternelle ne doit pas s'arrêter à la sortie du culte. Ainsi, Luc nous montre que la communion fraternelle n'est pas simplement une belle idée. Elle se voit dans le temps que nous partageons ensemble, dans l'attention mutuelle, dans notre soutien concret les uns les autres, dans la présence réelle les uns auprès des autres. Une église vivante manifeste une communion concrète, sacrificielle et joyeuse. Mon troisième point, une église saine rayonne dans le monde par une adoration joyeuse. Luc poursuit dans la deuxième partie du verset 46. Nous lisons « Et prenez leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Et prenez leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et donc, après avoir montré la communion concrète de cette église, de cette jeune église, Luc décrit maintenant l'atmosphère spirituelle dans laquelle il vivait. Là, on parle de l'atmosphère dans laquelle cette église vivait. Et deux mots ressortent ici. La joie et la simplicité de cœur. La joie et la simplicité de cœur. Ici, la joie n'est pas comme une excitation temporaire. Ce n'est pas un enthousiasme qui est artificiel. C'est la joie profonde de ceux qui ont été réconciliés avec Dieu. La joie de ceux qui ont été réconciliés avec Dieu. Le pardon des péchés, la paix avec Dieu, la communion avec Christ, la présence du Saint-Esprit, la vie nouvelle au sein du peuple de Dieu. Tout cela remplissait leur cœur d'une joie réelle. Il n'y a que ça qui est suffisant pour que nous puissions marcher avec joie et avec reconnaissance. De savoir que ce Christ-là qui est mort pour nous, qui a pris nos fautes sur la croix, qui nous a pardonné nos péchés, et que par lui nous sommes justifiés. Ça, simplement, devrait animer notre joie, nous donner cette joie réelle. Là où la grâce est goûtée, où le salut est compris, où Christ est aimé, il y a une joie qui est sainte. Ce n'est pas une joie bruyante pour elle-même. C'est une joie profonde, une joie qui est humble, c'est une joie qui est reconnaissante. Nous lisons en Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc ici, la joie est un fruit de l'Esprit. Elle naît de la paix avec Dieu et de la conscience d'être reçue par grâce. La joie chrétienne n'est pas d'abord dans les circonstances, quand ça va mal ou quand ça va bien, mais dans le Seigneur. Parce que les circonstances changent, mais Dieu, lui, ne change pas. Il reste le même. Luc ajoute qu'il vivait cela avec simplicité de cœur. Simplicité de cœur. Cette expression évoque une sincérité, une droiture, une absence de duplicité. Leur foi n'était pas d'apparence. Leur foi n'était pas de calcul ou une mise en scène quelconque. Il y avait chez eux quelque chose de vrai, quelque chose de simple, quelque chose d'authentique. L'Église du Seigneur doit être une communauté où la grâce produit la simplicité, la sincérité, la vérité des relations et l'humilité des cœurs, et non pas être des lieux de façade spirituelle. Où je viens juste parce que je viens. Dans le fond, j'aime pas mes frères et sœurs. Je viens parce que ça m'a été imposé. Ou je sais que quand j'étais jeune catholique, j'y allais parce que ma mère m'exigeait d'y aller. Par exemple. Mais lorsque Christ nous a sauvés, lorsque nous avons goûté à la grâce, nous avons cette joie, ce désir ardent de venir nous retrouver, nous rassembler ensemble, adorer Christ en esprit et en vérité, sans duplicité, mais avec joie et un amour ardent pour les saints. Et le verset 47 ajoute, « Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Leur vie était d'abord tournée vers Dieu. Louant Dieu, ils louaient Dieu. Leur vie était tournée vers Dieu. Tout ce qu'ils vivaient, leur doctrine, leur communion, leur générosité, leur joie, montaient en adoration vers le Seigneur. L'Église existe pour la gloire de Dieu. Elle n'est pas centrée sur elle-même. Elle n'est pas là pour s'admirer, mais pour louer celui qui l'a sauvée. Nous lisons 1 Pierre 2, verset 9. Qui part de l'Église. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'Église n'existe pas pour aller en croisade avec les gouvernements ou avec qui que ce soit. L'Église existe pour proclamer les excellences de Dieu. L'Église existe pour proclamer la vérité de Dieu. Elle est sauvée pour adorer et son adoration devient un témoignage. Mais cette vie orientée vers Dieu avait aussi un effet visible dans le monde. Nous lisons « Trouvons grâce auprès de tout le peuple ». Trouver grâce auprès de tout le peuple. Cela ne signifie pas que l'Église sera toujours applaudie. Elle ne sera pas éprouvée. Les chapitres suivants montrent rapidement l'opposition, les menaces et la persécution. Mais à ce moment précis, la beauté de leur vie commune, leur sérieux, leur générosité, leur joie simple et leur adoration sincère donnaient un témoignage qui touchait même ceux qui les observaient. C'était un témoignage visible et vivant pour les gens de l'extérieur. Matthieu 5, 16 nous dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Le témoignage chrétien n'est pas seulement verbal, mais il est aussi visible. Il est visible. Une église qui vit l'évangile rend l'évangile visible. Quand Christ transforme un peuple, cela se voit. On le voit quand Christ transforme un peuple. Et Luc conclut par la suite. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur qui a ajouté. Ce n'était pas les apôtres. Ce n'est pas l'habileté des apôtres à proclamer la parole. Ce n'est pas d'abord l'attractivité du groupe qui emmenait les sauvés. C'est le Seigneur qui sauve. Et c'est le Seigneur qui ajoute les sauvés à son Église. Et Jean Calvin insiste que c'est Dieu qui donne l'accroissement à son Église. Les hommes prêchent, enseignent, exhortent, plantent et arrosent, mais Dieu seul donne la vie. C'est Dieu seul qui donne la vie. Nous avons beau faire tout ce que nous voulons, mettre des bannières dans toute la ville, faire des appels téléphoniques pour que le monde vienne. Mais in fine, c'est Dieu qui donne la vie, c'est lui qui ajoute, c'est pas nous. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous proclamons la parole de Dieu, nous exhortons. Et lui seul ajoute et bâtit son Église. Paul le dit en 1 Corinthiens 3, versets 6 et 7. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose. » Mais Dieu qui fait croître. Et notez bien que ceux qu'il sauve, lui, notre Dieu, il les ajoute à l'Église. Ce que le Seigneur sauve, il les rassemble avec son peuple. Il bâtit son Église jour après jour. Et cela correspond à la promesse de Jésus en Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Christ bâtit son église. Il se sert des moyens humains, mais l'œuvre est la sienne. Voilà donc le rayonnement d'une église saine. Elle adore Dieu avec joie. Elle vit avec simplicité. Elle rend un témoignage visible. Et le Seigneur se plaît à s'en servir pour appeler encore d'autres à lui. Quelques applications. Ce passage nous appelle à revenir à la beauté simple et puissante de la vie de l'Église selon Dieu. La parole, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Ce sont là les moyens ordinaires de grâce que le Seigneur a donné à son peuple, a donné à son Église. Ne les méprisons pas. Ne les méprisons pas. Aimons-les, recherchons-les et persévérons-y. Ce texte nous appelle aussi à examiner notre communion ensemble. Sommes-nous seulement présents ensemble ou réellement unis en Christ? Parce qu'une église fidèle ne doit pas seulement être solide dans la doctrine. Elle doit être aussi profonde dans l'amour. Elle doit être attentive aux besoins. Elle doit être généreuse dans son service, prête à porter le fardeau des siens et des saints. Ce passage nous appelle encore à une foi qui est simple, sincère et joyeuse. Dans un monde qui est marqué par l'individualisme, l'apparence, le Seigneur veut former un peuple qui est humble. Un peuple qui est vrai devant lui, un peuple qui est libéré de l'égoïsme, un peuple qui est marqué par la crainte de Dieu et la joie de sa grâce. Enfin, ce passage nous garde dans l'humilité et dans l'espérance. C'est le Seigneur qui ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Notre responsabilité est d'être fidèles. C'est notre responsabilité d'être fidèles au moyen de grâce. Sa puissance souveraine est de donner la croissance. Ne nous glorifions pas quand Dieu bénit et ne nous décourageons pas quand d'autres partent. C'est Dieu qui ajoute, c'est Dieu qui retire. C'est Dieu qui purge aussi. Il est souverain sur toute chose. Il y en a qui vont venir, qui vont nous rejoindre, mais il y en a aussi qui vont partir. Est-ce que c'est parce qu'on a mal agi? Ça arrive parce que nous sommes une communauté de pécheurs. Mais si toute chose arrive, ça arrive par la providence de Dieu et selon ses décrets. Et tout ce que nous avons à faire, c'est pas d'être en conflit les uns les autres, mais c'est de nous remettre à Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui gère toute chose et qui gouverne toute chose. C'est lui qui ajoute à son Église. C'est lui aussi qui peut retirer son Église. En conclusion, ces versets nous offrent un portrait magnifique de l'Église tel que le Seigneur le forme par sa grâce. Nous y voyons une Église attachée à la doctrine apostolique, persévérante dans la prière, fidèle dans les ordonnances, riche en communion fraternelle, généreuse dans l'amour, joyeuse dans son adoration, simple dans sa vie et visible dans son témoignage. Ce passage nous rappelle que l'Église n'est pas appelée à inventer sa propre vie. Elle est appelée à recevoir humblement ce que son Seigneur a ordonné dans sa parole. Le Christ ressuscité n'a pas laissé son peuple, n'a pas laissé son Église dans le flou. Non, il gouverne toutes choses. Il lui a donné sa parole, il lui a donné ses moyens de grâce, sa communion et sa promesse de croissance. Que le Seigneur nous garde d'une orthodoxie froide. Quand je parle d'orthodoxie froide, je veux juste parler du fait que on peut être fort dans la doctrine, aimer la saine doctrine, mais être froid dans nos relations avec les autres, être distant dans nos relations. Nous avons des visiteurs ici qui viennent pratiquement tous les dimanches, qui parmi nous va vers eux. Cherche à les connaître. Mais nous aimons bien nous retrouver après les cultes, parler de doctrine, de pensée biblique. Mais est-ce que nous allons vers les autres, connaître leurs besoins, connaître qui ils sont, comment on peut les aider dans leur cheminement? Et donc que le Seigneur nous garde d'une orthodoxie froide, qu'il nous garde d'une communion superficielle, qu'il nous garde d'un témoignage sans sainteté, et qu'il fasse de nous, par sa grâce, une église façonnée par sa parole, affermie dans les moyens de grâce, unie dans l'amour fraternel, joyeuse dans l'adoration, simple dans sa marche, et rendue visible par l'amour de Christ. Car l'Église n'est pas notre œuvre. L'Église n'est pas notre œuvre. Elle est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. C'est lui qui l'a bâti. C'est lui qui la purifie. C'est lui aussi qui la nourrit. C'est lui qui la garde. Et c'est lui encore, aujourd'hui, ajoute à son Église ceux qu'il sauve. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole sainte, ta parole parfaite et ta parole suffisante, Seigneur. Merci pour ce portrait de l'Église que tu nous donnes dans ce passage. Merci parce que tu ne nous laisses pas sans direction, mais tu nous montres que tu nous aimes, que tu aimes ton peuple. Tu aimes une Église qui est attachée à ta vérité. Tu aimes dans ton Église la communion fraternelle. Tu aimes la fidélité dans les ordonnances et la persévérance dans la prière. Tu aimes la générosité dans ton Église. Tu aimes sa joie et tu aimes sa louange qui monte vers toi. Seigneur, fais de nous une Église qui persévère réellement dans les moyens de grâce. Donne-nous d'aimer ta parole. Donne-nous d'avoir faim de l'enseigner. Et donne-nous de recevoir avec douceur tes paroles. Donne-nous, Seigneur, de nous aimer en vérité, simplement, avec joie, et de nous servir les uns les autres, Seigneur. Donne-nous de ne jamais banaliser les choses saintes. Mais donne-nous aussi la joie du salut, la simplicité de cœur, la reconnaissance et la louange. Fais de nous un peuple uni, simple, paisible, sincère, qui veut te rendre toute la gloire, Seigneur. Et nous te prions encore, Seigneur, d'ajouter à ton Église ceux qui sont sauvés. Ouvre les cœurs, attire les pécheurs à Christ, fortifie les faibles, et ramène ceux qui sont égarés, Seigneur. Et bâtis ton Église pour la gloire de ton Fils. Nous te le demandons en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, et le chef vivant de son Église. Amen.